pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là en direct depuis le Jardin des Tuileries pour la 18e édition de Jardin, Jardin, Jardin avec un S, des jardins, dans un jardin au singulier et pas n'importe lequel, le Jardin des Tuileries. Alors, on parle cette année, nous avons comme thème les jardins ressources, responsables et généreux. C'est justement de ressources dont nous allons parler dans cette émission, commandité par Cité Verte Europe, qui est un programme soutenu par l'Union européenne et relayé en France par l'interprofession Valor. Valor, c'est le regroupement de toutes les entreprises du végétal, des fleurs, pour ne pas dire de la fleuristerie, et du paysage. Voilà, c'est dit pour cette tutelle. Quel est le sujet de notre entretien ? Eh bien, rien de moins que ce titre, « Les sols et l'eau, socle et source invisible et indispensable à l'adaptation des villes au changement climatique ». Sacré programme, sachant que nous avons 45 minutes pour l'aborder. Et alors, pour ce faire, nous sommes très heureux de recevoir quatre intervenants, dont la gageure n'en est que plus difficile, puisqu'ils ont un temps de parole plus limité. Béatrice Julien-Labruyère, vous êtes paysagiste conceptrice de l'agence Terre. Vous officiez également en tant que secrétaire générale de la Fédération française du paysage au niveau national. C'est la FFP, l'Union des paysagistes concepteurs, justement les landscape architects, on dit en anglais, vous traduirez en français. Et vous êtes également présidente de la FFP Île-de-France et enseignante à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
À ma droite, Élodie Stéphan, vous êtes designer et vous êtes notamment cofondatrice de Vertuo, le bocage urbain. Bonjour Élodie.
Bonjour.
À côté de vous, il y a Jérôme Sauvage, qui est directeur de projet chez Bouygues Immobilier et en particulier chez l'aménageur de quartier de Bouygues Immobilier qui s'appelle Urbanera. Bonjour Jérôme.
Bonjour à toutes et à tous.
Et vous nous apporterez votre retour d'expérience. Et puis, pour représenter l'eau, nous n'avons pas seulement Élodie, nous avons également Maxime Fouillet. Maxime, vous êtes écologue et vous officiez à l'Office international de l'eau. Et par ailleurs, c'est un point commun avec cette émission enregistrée en public, vous êtes animateur d'un podcast et ça coule de source qui s'appelle Les Petits Ruisseaux. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Alors pourquoi est-ce que nous abordons aujourd'hui autour du thème des jardins ressources, le sol comme socle et l'eau comme source indispensable de vie à tous les développements? Eh bien, tout simplement parce que nous vivons dans un régime hydrique extrêmement particulier, qui est une conséquence du réchauffement climatique et de tous les dérèglements qu'il implique. L'année dernière, à la même époque, nous enregistrions ici une table ronde, une émission sur « Faire avec l'eau d'ici et non pas l'eau de là ». Et quelques jours auparavant, à Rouen, une femme perdait la vie dans des pluies diluviennes. On a vraiment ce régime des eaux qui est perturbé. Nous vivons une sécheresse intense. Ma voix, et je vous prie toutes et tous de m'en excuser, est aussi perturbée par la poussière et les pollens qui sont beaucoup plus forts puisque nous sommes dans une période véritablement sèche. Ce régime hydrique est perturbé et il perturbe nécessairement nos vies, à commencer par celle du règne végétal qui est notre pendant à nous, animaux debout que sommes les êtres humains. Et puis, on a un contexte qui a beaucoup évolué aussi d'un point de vue sociétal et d'un point de vue de la loi, puisque la loi climat et résilience, issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, a introduit un certain nombre de définitions, notamment celle de l'artificialisation des sols. Et l'artificialisation est définie comme le fait de retirer au sol ses fonctions écologique et les fonctionnalités qu'il rend, les fameux services écosystémiques. Donc on voit que le sol est au cœur du sujet. Et au fond, les agronomes ne se sont pas trompés, il y a de cela plusieurs décennies, en parlant du SPAC, le continuum sol, plante, atmosphère, qui inclut l'eau comme source et le sol comme socle. Et c'est bien ce dont nous allons parler aujourd'hui, car au fond, cette source et ce socle sont à la fois des éléments indispensables pour survivre, mais aussi des éléments pour nous adapter. Il ne vous a pas échappé qu'un terme est de plus en plus utilisé pour qualifier les vertus du paysage urbain, ce sont les fameuses solutions fondées sur la nature. Et d'aucuns appellent cela les infrastructures vertes par opposition aux infrastructures grises que seraient nos tuyaux et nos bassins, de plus en plus sous-dimensionnés face aux épisodes de pluie très fortes, de plus en plus enterrés à mesure que la ville se construit et se renouvelle sur elle-même, et de plus en plus démunis face à l'absence de pluie pendant plusieurs semaines, si ce n'est pendant plus d'une année, comme c'est le cas dans le sud-ouest de la France. Alors, on va aborder successivement ces sujets et se mettre en débat ensemble avec tout d'abord Béatrice. Béatrice, donc, vous êtes paysagiste conceptrice, je le disais, et l'agence Terre dans laquelle vous travaillez a commis une exposition qui a beaucoup tourné, je ne sais pas si elle est encore en itinérance, qui s'appelle « Sol vivant ». Tiens, tiens. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pour vous, qu'est-ce qu'un sol ?
Alors, pour nous, les paysagistes, un sol, c'est d'abord une histoire géologique, une histoire géographique, un socle sur lequel nous étudions le paysage comme un système, en fait. Deuxièmement, pour nous, le sol, c'est un espace sur lequel on aménage et un élément qu'il faut qu'on travaille. Donc, nous pensons que le sol, c'est l'eau. C'est l'air et c'est l'action du vivant. Donc nous essayons de travailler ces sols dans tous nos projets avec cette vision de la géologie. Et nous sommes convaincus que le sol vivant est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place dans nos projets. Le sol, c'est un épanouissement, c'est une action du vivant et c'est une ressource.
Alors, parler de sol, vous avez cité ce mot de sol vivant qui a défini cette exposition. Qu'est-ce que c'est un sol vivant par rapport à un sol lambda ? Il y a des sols morts ?
Oui, il y a des sols inertes, il y a des sols pollués, il y a des sols plus ou moins anthropisés. Un sol vivant, c'est un sol dans lequel on a cette activité du vivant, donc des vers de terre, de tous ces micro-organismes qui sont dans le sol, dans lequel il y a de l'air qui passe et de l'eau aussi, et une activité qui est une activité qui est hyper dense d'ailleurs.
Qui est une activité très dense, tout ce qu'on ne voit pas, et on ne les voit pas ces sols.
Tout ce qui est invisible. Voilà, donc ce qu'on a fait dans cette exposition Sol vivant, l'Agence Terre, donc l'Agence Terre, paysagiste urbaniste, les trois associés Henri Bava, Olivier Philippe et Michel Osler ont créé cette agence de paysage il y a 36 ans, et depuis 36 ans, ils œuvrent tous les trois dans leur projet à créer des projets de paysage et donc la plupart du temps finalement refaire des sols pour qu'ils puissent être le support de la nature et du vivant. Donc notre exposition, nous l'avons appelée Sol vivant, socle de la nature en ville, puisque les paysagistes travaillent beaucoup sur les espaces urbains. Nous avons beaucoup de commandes en milieu urbain, pas assez d'ailleurs en milieu agricole, on aimerait beaucoup pouvoir les développer.
Oui.
Et donc, élu Grand Prix de l'urbanisme en 2018, on avait donc au sein de l'agence réfléchi à ce terme, l'urbanisme des milieux vivants, en se disant finalement c'est ça que cette agence et ces paysagistes font depuis 36 ans, de l'urbanisme des milieux vivants. Donc créer des quartiers, des rues, des parcs qui permettent d'être pour certains des machines hydrauliques pour un quartier ou d'autres... des réserves en fait de biodiversité. Et donc on a, voilà, à travers ce Grand Prix de l'urbanisme, puisque c'est à chaque fois c'est une autobiographie scientifique, on a regardé comment tous ces projets avaient été un peu innovants finalement, et on a eu envie de prolonger avec cette exposition Sol vivant qui a d'ailleurs suivi d'une autre exposition Ville vivante qui a eu lieu l'année dernière à la Maison de l'architecture de Lille. Et donc, pour revenir à cette exposition Sol vivant, nous avions envie de montrer les projets, le dessous des projets.
Oui. Donc, l'envers du décor, mais le dessous en l'occurrence.
L'invisible. Oui. Donc, nous avons montré au travers de grandes coupes animées, vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'Agence Terre, des coupes animées qui montrent l'activité en fait, d'un espace aménagé avec l'activité du sous-sol aussi qui est en lien. Donc, nous avons créé ces coupes avec l'écologue Gilles Galinet, avec qui l'agence travaille beaucoup. Mmh. Et puis, on a essayé de retraduire tout le processus d'un projet de paysage pour le grand public.
Alors, ce processus de paysage, comme vous le disiez, il part du socle de la géologie, le sous-sol. Il va ensuite évaluer ce sol, en quoi il est vivant, in situ, et puis éventuellement, s'il faut, j'imagine, l'amender, le transformer, comment on peut conjuguer au mieux avec l'existant avant de faire des mouvements. Comment qualifieriez-vous, à travers les projets ou un échantillon de projets, l'état des sols urbains aujourd'hui ?
Disons que tous les sols de France et certainement plus largement sont anthropisés, plus ou moins. Donc on hérite de sols qui sont quasiment tout le temps pollués, on va dire. Et qu'il faut retravailler. Alors il y a des pollutions qu'on ne peut pas du tout travailler à l'échelle d'un projet de paysage. Donc il vaut mieux confiner sur place des sols très pollués. Donc on se fait accompagner là-dessus. On travaille toujours avec des écologues et naturalistes pour essayer de voir comment on peut aussi, sur certains sols, remettre de la matière organique pour le réamender, ou bien
le rendre plus fertile,
ou alors c'est aussi une activation qui peut se faire avec des plantations pour certains sols. Mais peut-être je vous donnerai des exemples tout à l'heure.
Absolument, mais c'est un bon.
Il y a aussi après effectivement la matière organique. Dans la matière organique aussi, on peut aussi, avec des petits levains de sol, là, refaire des...
Comme la pâte à pain.
Comme la pâte à pain.
Réactiver la vie d'un sol.
Réactiver la vie d'un sol. Donc ça se fait de plus en plus chez les paysagistes, avec les bureaux d'études. On essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce sol qu'on hérite.
Eh bien, on a ce sol en héritage. C'est un socle. On essaie de le qualifier et de faire en sorte qu'il soit le plus vivant possible. Et ensuite, on a la source. Maxime Fouillet, vous qui êtes un grand pédagogue du sujet, et je le dis sans du tout vouloir vous flatter, l'eau en ville en particulier, comment est-ce qu'elle se matérialise à la fois dans ce qu'on appelle souvent, mais ça nous semble un peu virtuel, le grand cycle de l'eau, et puis de manière très pratique, ce qu'on peut appeler les petits cycles de l'eau?
Alors, forcément, en fait... Donc moi, je vais un peu me faire le porte-voix de la communauté des gestionnaires de l'eau, des gestionnaires de la ressource en eau. Directement, on dézoome de la ville et nous, on voit des grands territoires qu'on appelle les bassins versants, dans lesquels il y a des villes, mais forcément, on dézoome. On voit les choses en grand, le bassin de la Seine, le bassin de la Loire, le bassin du Rhône, etc. C'est à cette échelle-là qu'on va gérer la ressource. Et donc, dans le cycle de l'eau qu'on a tous appris à l'école, l'eau s'évapore, soit depuis l'océan, soit depuis la mer, rejoint l'atmosphère. Elle va pouvoir se concentrer, se condenser, précipiter, soit sous forme de pluie, grêle, neige, et là elle arrive au sol. Et deux possibilités, soit elle arrive en grande quantité d'un seul coup, ou alors il y a beaucoup de pente, ou alors le sol il est pas perméable à cet endroit-là. Donc là elle ruisselle, ça veut dire que ça va faire une lame d'eau qui va s'écouler dans le sens de la pente et très vite rejoindre ce qu'on appelle le réseau hydrographique, d'abord les fossés, les ruisseaux, les petits cours d'eau, les rivières, les fleuves, et puis la mer ou l'océan. Et là, donc il y a une portion qui va faire ça, qui va ruisseler, et le reste va s'infiltrer dans le sol. Et donc là, si on est en période, comme en ce moment, de développement de la végétation, bah, la végétation pompe l'eau directement pour se développer. Et si on est en période plutôt hivernale, où il n'y a pas beaucoup de végétation, là, le sol va se saturer en eau, et on arrive ensuite au compartiment qui est en dessous le sol, donc vous l'avez déjà évoqué tous les deux, le sous-sol. Et forcément, le sous-sol, en tant que gestionnaire de l'eau, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément, puisque une fois que le sol est saturé, toute l'eau qui va arriver dans le sol va rejoindre le sous-sol et rejoindre par là ce qu'on appelle les nappes phréatiques, c'est-à-dire tous les petits interstices qu'il y a dans la roche-mère, les fissures, les pores, etc., qui vont se remplir d'eau. Et ça nous fait une réserve d'eau qui donc se remplit en hiver et non pas en été. Et donc le sol, c'est vraiment, enfin pour nous gestionnaires, évidemment, c'est le support de la vie végétale, il y a beaucoup d'autres choses, mais pour nous, c'est vraiment une interface entre l'atmosphère et les ressources en eau souterraines. Et avec du coup cet enjeu de, il faut qu'on fasse le plein des enfin je dis on, mais il faut que
le plein se fasse des réservoirs l'hiver,
sur la période hivernale quand il n'y a pas de végétation, puisqu'après c'est trop tard. Et là en ce moment on est un petit peu là, après quand même un mois d'avril qui a été plus humide et début mai plus humide aussi, on est un petit peu dans une situation ambiguë où la végétation sur, enfin j'exclus le sud-est qui est vraiment encore en sécheresse critique, mais la végétation se porte pas trop mal, les sols sont plutôt humidifiés, mais dans le même temps, on a des niveaux des nappes souterraines qui sont bas, parce que en fait, l'eau elle est arrivée trop tard dans la saison, donc elle a pas pu traverser le sol et aller jusque dans les eaux souterraines, quoi.
Donc on a une situation en trompe-l'œil où aujourd'hui les végétaux vont plutôt bien, mais on le sent de plus en plus, même à l'affleurement, on voit cette sécheresse qui s'exacerbe et qui va devenir plus critique, notamment pour les végétaux, mais aussi pour les êtres humains, notamment dans les usages. On parle beaucoup de conflits d'usage à mesure que nous allons avancer dans la saison, parce que cette couche du sous-sol, la couche géologique, dont les nappes phréatiques n'ont pas été suffisamment remplies cet hiver, c'est cela ?
Voilà, alors même que c'est ça qu'on utilise en grande partie pour faire l'eau potable, et puis que en fait, l'eau dans les eaux souterraines, les nappes phréatiques, elle s'écoule lentement, mais elle s'écoule. Et en été, si après 3 semaines sans pluie, il reste de l'eau dans les rivières et les fleuves, c'est parce que en fait, c'est les eaux souterraines qui sont connectées avec les fleuves et les rivières et qui se vident tout doucement dans les fleuves et les rivières. Mmh. Et donc, c'est ça qui alimente les milieux aquatiques durant la période sèche. Et en fait, la ville, dans tout ça, comme une grande partie quand même des sols en ville sont soit recouverts de construction, soit recouverts de bitume, soit accessibles mais dégradés, c'est-à-dire très compactés ou alors pollués, comme vous le disiez, ils ne fonctionnent pas très bien. Quoi. Soit il n'y a même plus d'interface atmosphère ou souterraine.
Ça veut dire que ça fuite directement.
Ben
ça,
voilà, c'est un filtre très vite. Il n'y a que le ruissellement qui marche. Quoi. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu une rustine. La ville est un petit peu une rustine dans le cycle de l'eau. Et donc, tout ce qui va être du travail sur de la renaturalisation, du retour du végétal, etc., de la restauration des sols, là, on atténue cet impact de rustine. C'est très bien. Quoi. Enfin, c'est vraiment ce qu'il faut.
Alors,
on
a cette rustine étanche qui empêche l'eau de s'infiltrer lentement, de constituer des réserves. Qu'est-ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau ? On entend ça régulièrement, je ne sais pas vous, mais
ouais,
ça
m'interpelle.
Le petit
cycle de l'eau, c'est même une expression nous, qu'on essaye d'arrêter d'utiliser parce D'accord. que ça met le bazar. Mais le petit cycle de l'eau, c'est qu'on prélève la ressource,
oui.
Soit dans une eau souterraine, soit dans une eau de surface. On la potabilise dans une usine de potabilisation. On l'envoie dans le château d'eau. Les gens, quand ils ouvrent le robinet, ça coule, ils consomment. Ça part après à la station d'épuration, c'est épuré. Et une fois que l'eau est épurée, elle est rejetée dans la nature. Et le problème de cycle, c'est qu'on a l'impression que c'est en boucle, alors que non. La station de potabilisation et la station d'épuration, ce n'est pas la même chose.
Ce sont deux choses bien différentes.
Les eaux usées ne repartent pas dans la station de potabilisation. Quoi. Donc on essaye de ne plus parler de petit cycle, on essaye de parler de parenthèse de l'eau maintenant, la parenthèse urbaine.
Parenthèse urbaine. Et alors justement, cette parenthèse, elle n'est pas anodine, puisque vous allez le voir, et c'est le lien avec nos deux autres intervenants, on a, vous nous l'avez dit Maxime, besoin en matière de gestion de l'eau, de dézoomer, de regarder l'échelle du territoire et l'agence Terre, c'est aussi territoire, et vous l'avez bien dit Béatrice, regarde plus grand de manière macro et ensuite vient faire un zoom sur l'espace public, qu'il soit un quartier ou un îlot plus précis. Et au fond, le thème qui nous relie aujourd'hui, c'est comment est-ce que le sol et l'eau sont des socles indispensables, non pas pour... La vie, on a parlé de la vie végétale, mais aussi pour nous adapter à des changements qui vont très très vite. Plus 4 degrés, le ministre de la Transition écologique a lancé il y a quelques jours, nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois de mai, et c'était il y a une semaine, une grande consultation pour savoir comment nous allions nous adapter. Et on demande beaucoup plus aux vivants, que ce soit le sol, l'eau et le végétal, pour nous rafraîchir notamment. Puisque plus 4 degrés à l'horizon 2100 en moyenne en France, ce sont des températures beaucoup plus élevées dans un certain nombre d'endroits et exacerbées par le phénomène d'îlots de chaleur urbain. Cette rustine, c'est aussi une rustine de chaleur. Et lorsqu'on regarde les chiffres, on a besoin d'une action publique, d'une action du législateur pour nous donner les règles, des maires, des intercommunalités avec les PLU, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Mais on constate aussi qu'entre 70 et 80% des villes sont composées d'une somme d'espaces aujourd'hui verts, privés. À Lyon, dans la métropole de Lyon, ce sont 70% des espaces dits de nature, et ça n'est pas moi qui le dis, c'est la métropole, et Bruno Bernard le répète à l'envi, notamment sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller vérifier, le président de la métropole, 70% des espaces dits de nature de la métropole de Lyon qui sont de maîtrise d'ouvrage privé, dans les cœurs d'îlots, etc. À Nantes, Jacques Soignon, que je salue, ancien directeur des espaces verts de la ville de Nantes. La ville de Nantes intramuros, c'est 50% d'espaces de nature privés sur la totalité de la surface. Et ça fait donc le lien avec nos deux autres intervenants. C'est comment est-ce qu'on conjugue la vision macro très large du paysagiste concepteur, très spécialisé, mais aussi très large dans son échelle géographique de l'hydrologue et de l'ensemble des gestionnaires de l'eau, avec une action aussi à l'échelle du quartier et de la parcelle. Et pour cela, nous avons un représentant des quartiers avec Jérôme Sauvage. Jérôme, vous êtes donc directeur de projet chez Bouygues Immobilier et en particulier chez Urbanera. Comment est-ce que ce sujet résonne au travers peut-être d'abord d'une première expérience et on en prendra une autre tout à l'heure ?
Merci Pierre. Vous avez parlé d'artificialisation des sols en propos introductifs et je vais démarrer mes propos effectivement par un chiffre, c'est que 68% de l'imperméabilisation des sols est liée à l'habitat. Donc nous, promoteurs et aménageurs professionnels de l'immobilier, on a un rôle pleinement à jouer pour limiter l'imperméabilisation et l'artificialisation des sols, créer de la biodiversité positive, permettre à chacun de vivre une expérience de nature en ville. Donc Bouygues Immobilier et Urbanera, donc qui est la branche aménageur de Bouygues Immobilier, sur tous les sujets qui sont liés à la désimperméabilisation des sols, aux îlots de fraîcheur urbains, à la végétalisation de la ville, nous sommes pleinement engagés sur ces sujets depuis une dizaine d'années, notamment dans des projets qu'on abordera tout à l'heure, notamment l'écoquartier Ginkgo, sur lequel on a un retour d'expérience assez significatif, et l'écoquartier des fabriques à Marseille, donc dans un environnement méditerranéen, justement, où il pleut très, très peu en ce moment. Donc, Bouygues Immobilier, on a développé une véritable expertise sur tous ces sujets-là, puisqu'on intervient notamment sur des friches industrielles dans lesquelles, finalement, le sol est complètement imperméable, les habitats pour la faune et la flore ont été détruits, et donc finalement, l'eau ne s'infiltre plus dans ces sols-là. Donc à l'échelle de l'entreprise, on a travaillé avec des paysagistes, des écologues, des bureaux d'études spécialisés justement sur un cahier des charges, un guide justement de solutions pratiques, à la fois sur les îlots de fraîcheur, sur la qualité de l'air, sur le cycle de l'eau. Et toutes ces solutions, elles sont dans un recueil qu'on appelle les essentiels et qui sont finalement les garanties que nous, on va fournir à nos clients sur ces quartiers qu'on aménage.
Eh bien, on attend avec impatience ces deux exemples, l'un à Bordeaux, l'autre dans lequel vous évoluez maintenant, à Marseille. Et effectivement, la situation est assez critique. Et c'est intéressant de voir cette échelle du quartier qui finalement est intermédiaire entre celle de la collectivité et puis celle de l'îlot. Alors maintenant, on va faire encore plus un focus avec Élodie, que je laisse prendre de l'eau de Paris, de l'eau du robinet, de sa gourde. Élodie, vous êtes designer. Et on peut se dire, qu'est-ce que vous faites dans un tel plateau? Et vous avez développé avec Baptiste Laurent, que nous saluons, qui n'est pas très loin, en train d'expliquer sa solution. Tout d'abord, ce qui s'appelait le bocage urbain. Et là, c'est assez explicite et vous allez nous l'expliquer. C'est un pléonasme qui s'appelle Vertuo, la marque commerciale. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette start-up? Et en quelques mots, qu'est-ce que Vertuo avant une pause musicale?
Alors, Vertuo, donc, c'est une entreprise qui édite des solutions de végétalisation autonomes en eau pour la ville principalement. Donc, bocage urbain, c'est la solution majeure de notre entreprise. Et en fait, ça s'inspire pleinement du paysage du bocage où j'ai à l'origine, venant de Bretagne, ayant vécu toute mon enfance dans la campagne bretonne, j'ai eu l'occasion de connaître et de découvrir ce modèle paysager qui, en fait, on y pense peu et tout le monde ne le sait pas, mais c'est un vrai système hydraulique complexe et très efficace dans les campagnes, au-delà de constituer un parcellaire de haies qui est la partie visible de l'iceberg en fait. Et donc moi en tant que designer, lorsque j'ai fait mes études, j'ai développé des projets vraiment pluridisciplinaires et je me suis questionnée sur la place des flux naturels dans la ville. Donc avec Vertuo, on développe cette solution bocage urbain qui en fait consiste en un module qui permet de stocker les eaux de pluie qu'on récupère dans la ville au plus près de la source, donc au plus près de là où elles tombent, dans des environnements très, très imperméables. Et donc à l'intérieur de ce module, on stocke cette eau et juste à côté, dans ce même dispositif, on a une partie qui vient accueillir le substrat et les plantes.
Donc pour qu'on puisse le figurer, se le figurer à l'oral, ce qui n'est pas forcément évident.
Non.
Alors pour celles et ceux qui sont avec nous, merci chères spectatrices et chers spectateurs, mais pour les auditrices et les auditeurs, on vient donc récolter l'eau de ruissellement ou l'eau de toiture, c'est ça?
Voilà, en fait on est soit sur des ouvrages enterrés, soit sur on va considérer ça comme du mobilier urbain prêt à poser. Et donc ces modules viennent s'associer les uns à côté des autres, pour être raccordés, pour venir récupérer les eaux de pluie qui ruissellent dans la rue lorsqu'ils sont enterrés, ou alors pour venir récupérer les eaux de toiture parce qu'ils sont raccordés aux descentes de gouttières afin de végétaliser des pieds de bâtiments, des pieds d'immeubles par exemple. Donc on va à la fois pouvoir créer des haies en bordure de voirie pour isoler les flux de circulation des flux piétons et également créer des sortes de bosquets ombragés rafraîchissants sur des places publiques, sur des espaces publics ou encore dans des patios, sur des projets immobiliers par exemple, dans des petites cours intérieures, etc.
Eh bien, nous venons d'aborder le socle, la grande échelle ou l'échelle large. Je ne sais jamais, je fais toujours cette erreur. Je me souviens de quelques études il y a plusieurs années maintenant. Nous avons parlé du sol, nous avons parlé de l'eau. Nous avons esquissé l'action et la pierre angulaire que peut constituer les relations publiques-privées. Et puis une solution extrêmement pratique qui peut être à l'échelle micro-locale et être mise en réseau avec Vertuo. Eh bien, je vous propose à toutes et à tous que nous marquions une pause musicale pour ensuite mieux revenir et passer à la pratique avec des exemples développés par vous quatre. En attendant cette pause musicale, une petite introduction. David Robert Jones, certains auront reconnu de qui il s'agit, publiait en 2003 son dernier album pour une décennie avant de faire son grand retour en 2013. Reality, c'est le titre de cet opus de 2003 qui succédait au magistral, ça n'est que mon avis, Heaven, écrit peu après les attentats du 11 septembre par celui qui avait élu domicile à New York. De Reality, vous vous souvenez peut-être, et ça n'est pas sans lien avec le thème de notre émission, Never Get Old, générique d'une publicité pour une marque d'eau minérale. Une eau minérale en bouteille qui est au cœur d'un conflit d'usage depuis plusieurs mois. Vous tapez dans l'est de la France, je n'en dirai pas plus, d'une grande compagnie. Pénurie oblige pour être en lien avec ce que Maxime Fouillet de l'Office international de l'eau nous a expliqué. Mais au passage, en 40 secondes, 39 secondes, le clip de cette publicité était extrêmement réussi puisqu'on voit Ziggy Stardust jusqu'au Thin White Duke, tous les avatars de ce chanteur, auteur, compositeur. Écoutons la bien nommée Looking for Water et buvons un verre d'eau au son de David Bowie.
looking for water, looking, looking, looking for water, looking for water, looking, looking.
Eh bien, David Robert Jones, alias David Bowie, Ziggy Stardust, The Thin White Duke et tant d'autres avec un accent et une voix cassée, je vous prie de m'en excuser, la faute à la sécheresse, est en train de chercher de l'eau. Et l'eau et le sol, ce sont les deux sujets. L'eau comme la source de vie et le sol comme le socle indispensable au développement des solutions fondées sur la nature qui peuvent nous aider à nous adapter en ville au changement climatique. On en demande beaucoup à ces solutions fondées sur la nature. Chères auditrices, chers auditeurs et vous qui êtes dans la salle, nous sommes dans le cadre du cercle, du cycle d'émissions Lapsus Cité Verte Europe avec le concours de l'Union Européenne et le truchement de l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage, Valor, pour parler de ce thème. Et nous avons esquissé à la fois la vision globale et la nécessité d'imbriquer les échelles. Élodie Stéphan, designer qui est à l'origine de Vertuo, nous expliquait le principe du bocage urbain comme une solution pour ralentir l'infiltration des eaux, la stocker dans des périodes de sécheresse et la restituer au milieu, cette eau qu'elle vienne des toitures ou qu'elle vienne du ruissellement, à la fois à une échelle très locale, mais aussi en constituant, comme le bocage des haies, un réseau. Maxime, tout d'abord, je rappelle, Maxime Fouillet, que vous êtes écologue et que vous travaillez à l'Office international de l'eau. Quelle est votre réaction face à cette solution que nous a présentée Élodie? Et comment est-ce que ça peut s'interfacer avec l'échelle du quartier?
Du coup, en fait, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que nous, en tant que gestionnaire de l'eau, notre ambition à l'échelle de la ville, ça va être de restaurer, rétablir ce sol comme interface entre l'atmosphère et les eaux souterraines. Donc, évidemment, préserver tous les sols qui sont encore fonctionnels, et puis sur les sols dégradés qu'on peut restaurer, faire en sorte de les restaurer, de les rendre vivants à nouveau. Mais il y a des endroits où on ne peut pas, parce que de toute façon, dessous, la roche-mère n'est pas accessible, par exemple parce qu'il peut y avoir un parking dessous, sous un bâtiment construit, par exemple, ou pour d'autres raisons, dont certainement des raisons qui m'échappent, parce que je ne suis pas opérateur de terrain en ville, je ne me rends pas compte de toutes les complexités techniques auxquelles on peut se confronter, mais dans ces espaces-là, on ne peut pas rétablir la connectivité entre l'atmosphère et les eaux souterraines, et donc c'est là qu'il y a plein de solutions qui permettent d'avoir un intermédiaire avec un stockage en local et une utilisation pour le vivant. Et donc la solution bocage urbain, on est là-dedans, donc on est dans une des... C'est pas la seule, il y en a d'autres, mais en tout cas on retrouve cette philosophie-là avec, en tant que gestionnaire de l'eau, bien sûr un intérêt, alors qu'il va pas tellement être pour, du coup, les eaux souterraines, mais par contre, ça permet de gérer en local des eaux pluviales et donc éviter ce qu'on appelle les inondations par ruissellement en ville, quand il y a énormément d'eau qui arrive d'un seul coup dans la ville, que ça coule du coup dans tous les sens, dans les pentes, et qu'il y a des endroits où l'eau arrive beaucoup plus vite qu'elle ne peut s'écouler. Là, le niveau monte et on a une inondation qui n'est pas un débordement de cours d'eau, mais qui est liée typiquement à un orage en ville. Et donc là, dès qu'on peut déconnecter de la toiture, déconnecter de la surface, c'est-à-dire, quand je dis déconnecter, c'est que toute l'eau qui arrive sur cette surface imperméable, qu'elle ne s'écoule pas avec le reste des eaux pluviales, quoi. Donc typiquement, là, c'est ça. Et en plus, donc ça c'est sur le plan de l'eau, mais après, il y a tous les autres bénéfices qui vont être de ramener du végétal, donc un petit peu d'ombre, de l'habitat, un petit peu de sol vivant aussi, donc voilà, de l'habitat à la fois pour les insectes, pour les oiseaux, et donc participer à la qualité du cadre de vie, etc.
Alors je rappelle quelques chiffres, vous parlez du végétal, l'ADEME l'a très bien documenté, le premier facteur de rafraîchissement, c'est l'ombre. On peut faire diminuer la température de 3 à 5 degrés et diminuer la consommation en matière de climatisation de 50 à 60%. C'est Caroline Molly qui rapporte ces chiffres dans l'excellent ouvrage, et je vous invite à écouter notre podcast à propos de son ouvrage qui s'appelle « À l'ombre des arbres », paru en mai 2023 aux éditions de La Chaux et Niestlé. Et puis ensuite, c'est l'eau effectivement qui circule comme une colonne dans le végétal, en particulier dans les arbres. Un arbre de 12 mètres de haut consomme quotidiennement 225 litres. Mais cette eau, il la restitue au milieu, en local. Et lorsqu'elle passe de l'état liquide, la fameuse colonne d'eau, Jean-Louis Etienne, qui n'a rien d'un jardinier, quoique, ou d'un agronome, le dit souvent, un arbre est un château d'eau, eh bien, l'eau passe ensuite à 90% dans l'atmosphère en local et passe à l'état gazeux. Et en passant de l'état liquide à l'état gazeux, ça consomme de l'énergie et on a cette sensation de fraîcheur réelle. Merci Maxime pour cette mise en perspective. On vient de voir le très local, vous pourrez réagir à nouveau. Jérôme, Vous nous avez donné, mis en appétit en parlant de deux exemples de quartiers sur lesquels vous, en tant que donc Jérôme Sauvage, directeur de projet chez Bouygues Immobilier, en particulier pour Urbanera, qui est l'activité d'aménageur de quartier, vous nous en avez parlé, vous avez cité deux quartiers, Ginko à Bordeaux. Qu'avez-vous fait dans ce quartier ?
Merci. Alors Ginko, c'est un quartier que Bouygues Immobilier a réalisé pendant plus d'une dizaine d'années, hein, de près de 6000 habitants, qui est sur les berges du lac de Bordeaux. Alors l'acte fondateur de ce quartier, c'est peut-être de lui avoir donné le nom d'un arbre, Ginko Biloba. Mais encore plus, je pense que l'acte fondateur pour notre entreprise, ça a été avant de vendre le moindre appartement et de couler le moindre mètre cube de béton sur ce quartier, ça a été de réaliser un parc de 4,5 hectares au sud du quartier, de réaliser aussi une venelle verte qui est venue sillonner à l'emplacement entre les futurs immeubles. Et on a planté très rapidement presque 850 arbres dans le quartier. La chance qu'on a eue, c'est que les sols en place, il y avait une nappe perchée. Et donc les arbres ont eu une croissance extraordinaire sur le site. Donc on s'est très vite rendu compte qu'on avait un couvercle végétal qui était assez important. Et le taux de canopée qu'on est venu mesurer dans le quartier est supérieur à 10%, qui pour un quartier qui a juste une dizaine d'années est assez important. Donc une fois ce constat fait, finalement qu'on avait une végétation plus luxuriante sur ce quartier neuf, on a voulu instrumenter les choses, avoir un retour d'expérience. Donc on a pris trois quartiers dans Bordeaux, un quartier du centre-ville, un quartier nouveau et puis le quartier Ginko. On est venu instrumenter ce quartier, on a posé des capteurs donc de température, des capteurs d'hygrométrie. Et à l'été 2021, on est venu réaliser des mesures. Ce qu'on a constaté, c'est que le quartier Ginko était plus frais que les deux autres quartiers, donc lié notamment par ce taux de canopée qui était assez élevé, mais aussi par l'albédo des matériaux qu'on avait mis en place, par exemple. Et on a aussi réalisé des mesures dynamiques avec un cycliste qui est venu circuler à travers les chemins du quartier. Et on a constaté qu'en passant près des canaux qu'on a créés, en passant dans les zones végétalisées, on avait une température qui était nettement inférieure au reste des autres endroits de ce quartier et des autres quartiers bordelais. Alors cette végétation, elle a effectivement un rôle d'îlot de fraîcheur en ville. On peut le voir aussi avec le jardin de Bouygues Immobilier sur ce salon Jardin-Jardin. Mais ça permet aussi de capter du carbone. Aujourd'hui, ces 850 arbres, ils permettent de capter à peu près 120 tonnes de carbone par an, ce qui est assez important, et capter aussi 1,5 tonnes de matériaux polluants dans l'atmosphère.
Alors ce quartier Ginko, c'est un quartier neuf. On peut s'interroger en réaction, Béatrice, que faire à l'échelle des quartiers en tant que paysagiste concepteur dans des quartiers existants notamment? Et dans cette exposition Sol vivant, vous avez évoqué, puis Ville vivante par la suite, des exemples de votre agence, mais aussi une revue internationale. Qu'est-ce que vous pourriez indiquer comme quartier référence et comme action mise en œuvre à l'échelle des quartiers pour faire avec le déjà là et parfois ce que vous avez indiqué, un socle qui n'est plus du tout vivant, qui est une rustine, pour reprendre les mots de Maxime Fouillet?
Oui, alors pour rebondir sur le quartier Ginko, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en train d'élaborer des référentiels, des guides pratiques, justement pour travailler les quartiers avec l'eau, avec le sol, avec le climat. Mais vous venez de le présenter, Ginko. En fait, c'est l'étude d'un site qui fait qu'on sait comment on va l'aménager aussi. Et pour nous, c'est très important, les paysagistes concepteurs, parce qu'on a envie de créer des écosystèmes dans des écosystèmes. Donc, c'est pour ça que même si on a une petite parcelle à étudier, on va quand même réfléchir au bassin versant et à l'histoire, la géohistoire d'un site, etc. Et donc, pour donner un exemple, dans cette exposition, on avait présenté 7 projets, dont le projet de la ZAC des Deux-Rives à Strasbourg, qui est 79 hectares de construction d'un nouveau quartier sur un site industriel qui était un port, le port de Strasbourg, entre Strasbourg et l'Allemagne, et donc la frontière. Donc, Sur ce grand projet, on a décidé, alors au départ c'était quand même une ambition un peu d'économie circulaire, mais surtout d'économie tout court, de réfléchir à cette fameuse économie circulaire en tous les cas avec les sols. Et finalement, d'abord il y a eu une recherche, il faut prendre du temps en fait, c'est ça qu'il faut qu'on sache aussi, c'est que...
Plus près du micro.
Voilà. On a pris le temps de regarder les sols de ce quartier avant de commencer vraiment ce grand projet de nouveau quartier. Et on a regardé les sols sous les couches de béton, sous les 1 mètre de sol qu'il y avait sous ces couches de béton, sur certaines zones qui n'étaient pas polluées mais qui étaient construites en fait. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait retrouver, entre guillemets, le sol ancestral de cette vallée du Rhin, de cette vallée rhénane, et ce sol qui est pour les naturalistes extrêmement intéressant, qui était à 1 mètre en sous-sol. Donc finalement, avec un bureau d'études précis, dans un cadre défini, avec la maîtrise d'ouvrage, avec les équipes, on a décidé, donc c'est Henri Bava qui était chef de projet sur ce projet-là, ils ont donc décidé de retourner en fait ce sol pour retrouver ce sol ancestral de la vallée rhénane, puisque dans toute la réflexion qui était au départ de ce grand quartier qui avait été proposé par les premiers urbanistes, c'était plutôt le tramway et penser la ville est-ouest. Et là, d'un coup, nous, avec le projet de paysage, on a pensé nord-sud, c'est-à-dire le long du Rhin, en se disant finalement il y a 2 grandes forêts encore au nord et au sud qui enrichissent encore ces sols à distance, on va dire.
Et on peut les relier.
Du coup, on peut les retrouver. Donc on a en fait finalement créé un quartier en retravaillant tous les sols. Tous les sols ont été retournés. Donc si on a presque
et sans forcément beaucoup d'apports extérieurs, voilà, considérant l'existant.
Voilà, c'est ça. Donc c'est une expérimentation, je ne dis pas que c'est une solution justement, parce qu'il y a des zones sur les... D'ailleurs, ce n'est peut-être pas une très très bonne solution finalement, si on l'étudie à
grande échelle ou ailleurs.
À grande échelle, ou dans le temps long, etc. Mais en tout cas, là, c'était une solution qui était située et qui correspond un peu à ce que je voulais dire. C'est recréer des écosystèmes dans un grand écosystème, des choses qui vont pouvoir être viables.
Et s'attacher au contexte local. Alors, on vient de parler du sol, mais parfois, comment faire? Vous l'avez dit, Jérôme Sauvage, Urbanera, lorsque l'on est dans une zone en pénurie d'eau. C'est ce que vous vivez actuellement à Marseille. Rapidement, ce projet, en lien avec une maîtrise d'ouvrage plus large que la vôtre, une réaction de Maxime, et puis ensuite un petit mot d'Élodie, oui, avant bientôt de conclure.
J'ai effectivement posé mes valises à Marseille en 2018 pour m'occuper du projet des Fabriques. Donc, c'est un quartier d'un peu plus de 2000 logements dans les quartiers nord de Marseille. Alors, le constat à Marseille, c'est que le nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant est presque 3 fois inférieur à ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a une nécessité de renaturer ces quartiers neufs. Et vous l'avez dit, on a une pénurie d'eau qui est importante. Pour vous donner un exemple, à Marseille, je suis obligé d'arroser mon jardin depuis le mois de janvier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc il faut pouvoir, sur les épisodes pluvieux, notamment les épisodes méditerranéens qui arrivent à l'automne, réussir à capter l'eau, l'économiser et la réutiliser. Donc l'enjeu sur le quartier des Fabriques, c'est de créer un maximum d'espaces perméables. C'est pour ça que 60% des espaces publics et privés sont censés être perméables, justement pour recueillir l'eau. Et sur le quartier des Fabriques, avec Recours Méditerranée, un jardin d'expérimentation a été créé. C'est un lieu dédié à l'innovation, dans lequel on a réalisé des planches de revêtement, donc des bétons, des enrobés, des pavés avec des joints qui infiltrent l'eau. On est venu tester des solutions d'irrigation, avec de l'irrigation par submersion, par irrigation avec des caniveaux. L'objectif, c'est que cette eau, quand elle tombe du ciel, on ne la perde pas, on puisse la réutiliser, que les végétaux qui soient juste à côté, ils puissent justement bénéficier de cette eau pour qu'ils aient une croissance optimum. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu aujourd'hui dans ces quartiers, à Marseille, en Méditerranée, mais sans doute demain dans l'ouest de la France, dans l'est, dans le nord.
Et ça, c'est une coopération entre Urbanera et Euroméditerranée, l'établissement public. Je vous invite à lire un petit passage du Vin bourru, l'autobiographie de Jean-Claude Carrière, écrivain et cinéaste qui a passé les 13 premières années de sa vie dans l'arrière-pays de l'Hérault et qui dit « Nous devrions nous réjouir quotidiennement lorsqu'il pleut et dans les bulletins météo, ne plus parler de la pluie comme étant quelque chose de négatif. » C'était au tout début des années 2000. Eh bien, ça résonne fortement avec l'actualité. Une petite réaction, Maxime.
Eh bien, on retrouve un peu la philosophie qui sont beaucoup promues via les solutions fondées sur la nature pour l'eau, qui est vraiment de ralentir le cycle de l'eau. Effectivement, oui, quand l'eau tombe, faire en sorte qu'elle ne parte pas directement dans le réseau hydrographique. Ou j'aurais tendance à dire qu'elle n'est pas perdue pour tout le monde.
Bien sûr.
On dit perdue, mais c'est perdu en local. Mais bon, voilà, elle va alimenter les cours d'eau, etc. Oui. Mais c'est vrai que du coup, ralentir et puis laisser le temps de bien alimenter tout l'écosystème localement avant qu'elle ne reprenne sa route, soit dans l'atmosphère par évaporation par les plantes en local, soit par écoulement ensuite. Quoi.
Une petite éponge à la place de la grosse rustine.
Ah bah ça, je dirais même une grosse éponge.
Une grosse éponge. Alors, La grosse éponge, elle peut être très locale, on l'a vu, on l'a évoqué, Elodie Stéphane, designer qui avait cofondé Virtuo. En quelques mots, en quoi est-ce que ce sujet intéresse un designer ou la designer que vous êtes ?
Pour de nombreuses raisons, tout simplement parce que le rôle du designer, en tout cas la manière dont un designer réfléchit, c'est on est très centré usage. On est dans une logique de chercher à résoudre des problèmes. Et donc, quand on s'intéresse à la ville et à l'évolution de la ville, y a un boulevard pour réfléchir toute somme de choses qui permettent justement, on parlait de zoomer, dézoomer tout à l'heure, et dès lors qu'on a une vraie stratégie de développement, de renaturer les villes, etc., comment, à la plus petite échelle, on amène des briques qui permettent à tous les niveaux que ça fonctionne, que la ville devienne plus agréable à vivre avec tous les services écosystémiques que le végétal pourra nous rendre dès lors qu'on arrive à l'irriguer en plein été. Donc pour ces raisons-là, il y a beaucoup de design à faire et à penser encore pour les villes de demain, je pense.
Le design qui réfléchit aux usages et qui apporte des petites briques d'éponge pour faire cette grande ville éponge dont parlait Maxime. Et le mot de la fin, je vais le laisser à Béatrice Julien-Labruyère, paysagiste conceptrice de l'agence Terre, présidente de la Fédération française du paysage en Île-de-France et investie dans le bureau national de cette même fédération. Je vais reprendre une anecdote. En 2008, Christine Dalnocchi, paysagiste conceptrice, interrogée par Patrice Carmouze, excellent animateur, dans des débats pour le Grand Paris. C'était au pavillon de l'Arsenal, imaginez-vous, il y a 15 ans. Alors, c'est à votre tour, Christine Dalnocchi. Qu'en est-il des espaces verts ? Alors, c'est ça, un paysagiste concepteur ? On plante des espaces verts ?
Non.
Ah, alors qu'est-ce que c'est au prisme de nos évocations, l'échelle macro, l'échelle micro, le sol, l'eau, le végétal ? Comment résumeriez-vous votre mission ?
Eh bien, on aménage des milieux vivants.
Vous aménagez des milieux vivants qui peuvent fournir des solutions fondées sur la nature dont nous avons bien vu, et c'était le titre de notre émission, que le sol est un socle et l'eau une source de vie indispensable. Merci à toutes et à tous. Merci Elodie Stéphane. Je rappelle que vous êtes designer, cofondatrice de Virtuo, dont l'une des solutions s'appelle le bocage urbain. Merci Béatrice Julien-Labruyère, je viens de vous présenter à nouveau. Merci Jérôme Sauvage d'Urbanera, Bouygues Immobilier. Et enfin, merci Maxime Fouillet, écologue à l'Office international de l'eau. Courez écouter Les Petits Ruisseaux, ce superbe podcast avec d'autres ressources. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à animer cette émission en l'écoutant et en la regardant en public. Merci à toutes et à tous. Générique.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.